je suis venu à m'engager dans la question jurassienne par l'histoire. Comme instituteur à l'école primaire, je devais enseigner l'histoire de Suisse et je tenais beaucoup, comme je l'ai fait tout au long de mon travail, d'enseigner l'histoire de notre région. C'est important, les racines, on les a dans sa région. La grande histoire vient se greffer dessus. Alors, en enseignant l'histoire de Suisse, je ne comprenais pas que des entités telles que Glaris, telles que Fribourg, Soleur ou Appenzell puissent bénéficier d'un statut de canton dans la Confédération suisse et le Jura pas parce qu'il avait été sacrifié pour une compensation de pertes d'Argovie et de Vaud auprès des Bernois. Ça, ça a toujours été le moteur qui m'a fait être un séparatiste, en me disant, on est séparatiste parce qu'on a les mêmes possibilités, les mêmes droits que les autres, ce n'est pas contre les Bernois, ils sont servis, ils ont un grand canton qui leur suffit, nous, on doit avoir le nôtre, depuis l'Alsace jusqu'au lac de Bienne.
Et puis, vous avez été amené à prendre des responsabilités au sein du groupe Bélier, à siéger notamment dans le comité du Bélier, dès le début des années 70. Comment ça s'est passé, finalement, cette prise de galon, entre guillemets, au sein du Bélier?
Prise de galon n'est pas droit le bon mot pour un comité du groupe Bélier, mais vous êtes bien informé. Je suis venu là parce qu'au travail, j'ai rencontré René Froidevaux, instituteur à Seine-Légier, qui est militant Bélier aussi très ardent, et qui m'a encouragé à continuer. Et quand il a vu de quelle manière je m'engageais, il m'a invité à les rejoindre au sein du comité du groupe Bélier. Et de là, alors, j'ai pu participer à ces belles actions symboliques pour montrer aux Suisses, pour montrer à la Confédération suisse qu'elle devait s'engager dans la question jurassienne. La question jurassienne ne pouvait pas se régler qu'entre Berne et Jura, puisque Berne tenait deux parties et nous une seule. Il fallait que la Confédération arbitre ça, d'où la raison du groupe Bélier. Et je trouvais que c'était vraiment le meilleur moyen de mobiliser la Confédération pour qu'elle se bouge que de faire des opérations d'éclat, mais non violentes, comme le Bélier les a entreprises.
Ces opérations, vous avez participé à un certain nombre d'entre elles, et notamment à une de ces opérations autour des ambassades. Il y avait eu l'occupation de l'ambassade de Suisse en Belgique, à Bruxelles, mais parallèlement l'occupation de l'ambassade de Belgique à Berne. Vous pouvez nous expliquer quel rôle est-ce que vous avez joué dans cette opération en août 73?
Oui, alors après avoir participé à d'autres opérations, on m'a invité à participer à celle-là. Alors c'était vraiment internationaliser la question jurassienne. Il fallait que la Confédération soit suffisamment mal à l'aise en recevant des questions de pays voisins qui leur disent « Vous avez aussi des problèmes à l'interne chez vous, qu'est-ce qui se passe ?» Alors j'étais motivé. Mon rôle, c'était simplement d'occuper. C'est René Froidevaux qui avait conduit l'opération, bien sûr, avec d'autres, mais moi j'étais là parce qu'il fallait des personnes pour occuper. Alors on a occupé des pièces dans cette ambassade en prenant soin évidemment de ne rien toucher, de ne pas leur faire perdre des documents ou ne pas faire de case, mais simplement être là pour que ça devienne une question d'actualité. Ça a été une des grandes frousses, parce que quand on regardait par les fenêtres, quand on a vu arriver la police armée avec des fusils mitrailleurs pointés en direction des portes et des fenêtres, c'est la première fois de ma vie que je voyais qu'on était passablement menacés. On n'a pas lâché prise jusqu'au moment où la police est parvenue à entrer, parce qu'une secrétaire d'ambassade qui avait été enfermée et qu'on n'avait pas vu tout de suite a pu donner l'alerte, et la police est venue et pour finir, on a dû nous en aller. Mais la question a été marquée, a été relatée dans les milieux de la presse écrite et parlée. Le travail était fait.
C'était une opération qui était menée avec la collaboration de militants belges, wallons, avec lesquels vous avez occupé cette ambassade de Belgique à Berne. Comment ça s'est passé, ça?
La seule chose qu'on avait, c'est qu'on faisait symboliquement ensemble. Les Belges ont des questions de minorité dans les Fourons, notamment. Les Fourons, c'est pas très loin de la région de Maastricht, aux Pays-Bas. Et ils ont des problèmes aigus aussi, avec leur majorité flamande aussi. Alors, ils voulaient occuper une ambassade. Nous, on a eu l'idée avec eux, on avait des rapports. Mais c'était de conjoindre les deux opérations pour agrandir l'effet international. Comme je n'étais pas dans les initiés, il faudrait demander à ceux qui ont vraiment planifié, fait les repérages, s'ils avaient eu des indications par des gens de l'ambassade ou par d'autres Belges. Ça, je ne saurais vous le dire.
Et en parallèle, alors, des militants du Bélier occupaient l'ambassade de Suisse à Bruxelles, en Belgique. C'était vraiment une opération en deux phases.
Oui, c'était une opération conjointe, on va dire.
Dans vos souvenirs aussi de militants, une anecdote qui concerne un moment où vous avez dû répondre à des questions de la police aussi en lien avec Michel Gury, qui était quelqu'un de très engagé au Bélier. Vous pouvez nous raconter ça?
Ah oui, l'ami Michel Gury, c'est une personne à qui le Jura doit beaucoup. Nous avions été pris par la police à une ou deux reprises. Je ne sais plus si c'est lorsqu'on avait muré l'hôtel de ville ou si c'est après l'ambassade de Belgique. On était conduits au poste de police à Berne, je ne sais pas le nom de la place, c'est là où il y a la fontaine de Mérite Oppenheim, et on était interrogés. On s'était donné comme consigne qu'il fallait ne leur lâcher aucun renseignement. Donc on était convenu qu'on était tous venus en bateau, qu'on repartirait de la même manière et qu'on répondait des réponses qui n'étaient que des sornettes pour ne pas les aider. Ils nous ont auditionnés un moment et après on dit qu'on serait encore auditionnés chez nous pour plus de précision. Et plusieurs jours plus tard, convoqué à Seignelay-Légier, par Charles Willem, qui était à la fois préfet et en même temps juge de l'arrondissement des Franches-Montagnes, alors il nous interroge. Il nous interrogeait, il se contentait de poser des questions et n'essayait pas de nous tirer les vers du nez. Il nous interrogeait. Et quand je répondais ces sornettes, son greffier, qui était un conservateur éminent pro-bernois, finit par me dire, même si Jean Bourquin, vous êtes notre maître d'école à Seignelay-Légier, vous ne voulez quand même pas dire des bêtises pareilles. Monsieur Willem l'a interrompu, lui a dit, monsieur, vous êtes ici pour écrire, pas pour interroger.
Et cet interrogatoire, alors là, pas à Seignelay-Légier, mais à Berne, aussi autour de Michel Gury, vous étiez instituteur, il n'était pas très loin dans le secteur, on va dire ça comme ça.
Ah, ça c'était beau. Pendant qu'on se faisait interroger à Berne, à tour de rôle, Michel Gury n'avait pas été pris. Alors, il s'était installé sur une terrasse de bistrot, peut-être à 100 mètres de l'hôtel de police, et on nous avait dit qu'il y aurait quelqu'un, on ne savait pas que ce serait Michel Gry, mais que quelqu'un serait à la terrasse là et qu'il faudrait aller lui dire tout de suite de quelle manière on nous a traités et interrogés. Et pendant qu'on m'interrogeait, j'ai regardé en direction de cette terrasse et j'ai reconnu que c'était Michel Gury. Et au moment où on m'a interrogé, on m'a dit « Quoi, de nouveau un instituteur ? Encore, il y a trop d'instituteurs séparatistes. Il y a un instituteur qu'on aimerait bien tenir pour de bon une fois, c'est ce monsieur Michel Coury. » Et je riguais, je buvais du petit lait en voyant qu'ils auraient tellement aimé l'avoir et qu'il était à portée de notre vue.
On va venir maintenant à la préparation de la campagne du 23 juin, vous-même engagé ici aux Franches-Montagnes. La campagne en elle-même, comment est-ce que vous, à votre échelle de militant, vous l'avez menée ?
À l'interne au village des Bois, où j'ai passé ma jeunesse et où j'étais à l'époque, la cause était entendue, mais on avait quand même d'éminents pro-bernois. Mais on savait que c'était des indécrottables, notamment des paysans de souche alémanique. Mais il fallait faire de l'avance en terrain plus difficile. Alors comme j'étais au Bois, que je bossais à Seignelay-Légier, alors dès le lancement de la campagne plébiscitaire, mon chemin de l'école me menait des Bois à la Basse Ferrière, puis à la Chaux-d'Abel, où j'étais chargé de placarder des affiches ou de retirer celles des autres. Je vous cache pas, je les ai toujours retirées avec soin en me disant qu'il faudrait les léguer plus tard au musée jurassien pour documenter notre histoire. Et j'ai fait ça jusqu'au vote du plébiscite. En rentrant, j'allais regarder si mon travail était défait ou s'il avait subsisté. Et le lendemain, rebelote, on recommençait. En plus de cela, on a fait la campagne quand même au village pour convaincre les gens tièdes, ce qui n'était pas toujours facile. Dans les associations, ceux qui étaient à la fanfare de Belfer là, j'étais dans la société de gymnastique où il y avait passablement de gens mitigés, alors il fallait les convaincre. Mais à un moment donné, il y avait tellement à faire pour la campagne plébiscitaire, pour l'affichage et la décoration des routes. On a aussi été un peu peintre sur route à l'époque, alors j'ai délaissé un peu les séances de répétition de la gym. Et quelqu'un, un autonomiste, est venu me dire « Tu as tort, tu vas faire du travail contraire, tu vas les énerver, les mitigés. Il faut retourner à tes répétitions, puis t'occuper un peu d'eux. » Ce que j'ai fini par faire.
Le jour du vote, ça c'est un exemple que vous pouvez nous donner, ça s'est passé dans bon nombre de villages jurassiens. Les autonomistes veillaient à qui allait voter, qui se rendait au bureau de vote. Comment ça s'est passé pour vous?
Il fallait surveiller ça. C'est le vote le plus important que je n'ai eu et que je n'aurai jamais. On se prononçait sur le sort de notre nation, de notre pays. Alors, on avait la chance d'avoir un de nos bons béliers qui habitait juste à côté du bureau de vote. Alors, on a installé nos petites affaires par là. On détenait la liste de tous les électeurs de la commune. On pointait ceux qui étaient passés, d'une manière particulière ceux dont on était sûr, d'une manière derrière autres ceux dont on doutait, et surtout les absents. Et dans la dernière demi-heure de jeu, alors on était assez nombreux là pour envoyer quelqu'un aller chercher une famille d'autonomistes qui s'oubliait, et pour nous réjouir de voir que des Pro-Bernois manquaient. Une famille nombreuse de Pro-Bernois manquait toujours, et elle habitait une ferme reculée dans les côtes du Doubs, quand soudain, vers 2 ou 3 minutes avant la fin du scrutin, les voilà qui arrivent, débarquent de leur voiture, mais ne se pressaient pas, un peu comme s'ils étaient encore dans leur pâturage. Et on s'est dit, mais ces 6-là, est-ce qu'ils auront pu voter? Est-ce qu'ils auront pu quitter leur grosse Jeep avant? Et quand le vote a été fait, on a allé au bureau de vote voir si tout s'était bien passé, et on a demandé au président du bureau de vote, cette famille-là, est-ce qu'ils ont pu voter? On sait qu'ils votent non. Les électeurs qui arrivent en retard ne votent pas, monsieur, qu'on m'a dit.
Il n'y avait pas eu de tolérance, même s'ils avaient quelques secondes de retard.
Non, quand il est 14h, je ne sais pas si le bureau avait réglé son horloge sur l'horloge parlante ou sur le clocher du village qui était réglé. On n'avait pas encore le réglage satellite.
Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au moment où vous avez compris que c'est le oui qui allait sortir ce jour du 23 juin 1974?
Mais une joie immense, parce que ce n'était pas le canton actuel du Jura qui était libéré, c'était le Jura entier. On a gagné 36 402 contre 34 057, si je ne m'abuse. On a gagné. Alors, c'était une joie immense, incommensurable. Alors, dès que c'était sûr, on est parti à Seigne-Léger au Café National, fief autonomiste de la région, pour partager la joie et attendre tous les autres résultats des Franches-Montagnes. Et quand on a eu le résultat définitif, on a sauté dans nos voitures pour descendre faire la fête à Delémont. Nous sommes arrivés encore assez tôt pour entendre Roger Schafter prononcer son fameux « Il pleut la liberté ». C'est des moments d'une émotion des plus intenses. Il faut dire qu'à cette époque, eh bien, entre 20 et 25 ans, au lieu d'aller à la disco ou bien au match de hockey en fin de semaine, on ne faisait que du séparatisme, que du bélier, on s'occupait des routes, on se documentait, on allait voir des gens. C'était notre jeunesse, mais une sacrée belle jeunesse.
Ensuite, il y a eu la création du canton du Jura. Alors, on le sait, la défense du français, de la francophonie, a été au cœur de la mise en place du canton, à la constituante, et puis ensuite parmi les premières autorités. C'est ce qui vous a amené à devenir enseignant de français aux Seychelles. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, puis dans quel contexte tout ça s'est fait pour vous?
Ça s'est fait dans le contexte suivant. Le canton du Jura, ayant inscrit le terme de fraternité dans sa constitution, voulait en donner un exemple concret. Alors, ils ont décidé de collaborer avec un pays qui avait subi un peu le même parcours géo-historique que nous. Et les îles Seychelles en étaient l'exemple. Comme le Jura, à la chute de Napoléon, il passe sous la souveraineté d'un autre État qui ne parle pas la même langue. Comme le Jura, les Seychelles ont entre 60 et 70 000 habitants. Comme le Jura, les Seychelles deviennent indépendants dans les années 70. Nous, le plébiscite, nous donne la liberté en 74 avec entrée en souveraineté en 79. Les Seychelles deviennent indépendantes en 77. En même temps, les Seychelles souhaitaient revaloriser le français sous l'impulsion de Maxime Ferrari, que Roger Schafter connaissait par les affaires de francophonie. Et du coup, ils ont offert aux îles Seychelles de leur fournir 4 remplaçants pour enseigner l'histoire de la langue française, parce qu'ils ont voulu scolariser leurs élèves jusqu'à 15 ans. Auparavant, aux îles Seychelles, on était scolarisés jusqu'à 12 ans. Les scolariser jusqu'à 15 ans, il fallait d'abord du monde et pour apprendre le français. Et c'est comme ça que mon épouse et moi, Pierre-Alain Rira de Failly et Max Baumann de Tramelan, sont devenus les 4 premiers coopérants du canton du Jura.
Justement, vous avez quelque part un petit peu essuyé les plâtres de ces opérations de coopération avec des peuples amis ou des peuples frères menés par le canton du Jura.
Oui, on était les premiers, on était les cobayes, mais c'était une expérience humaine des plus intéressantes, déjà d'enseigner le français à ces gens. Alors, en même temps que je renseignais le français, j'apprenais le créole, c'était pas mal. Mon anglais a toujours été boiteux, je m'intéressais plus au créole qu'à l'anglais, c'était plus musical, c'était plus beau. Mais on était contents, on manquait de liberté. Alors, le régime mis en place après, 2 ans après l'indépendance, un régime totalitaire qui a pris le pouvoir, alors on sentait qu'on était surveillés, de même que l'a été notre compatriote Frère Rimier Montavon Capucin là-bas. Alors cette façon d'être un peu trop surveillé et de manquer de large, comme on dit chez nous, ne nous a pas encouragé à poursuivre l'aventure. On aurait pu, mais on a arrêté après une année.
Ces premières opérations de coopération menées par le canton du Jura, elles étaient organisées, évidemment, mais il y avait encore peut-être quelques petits défauts d'organisation.
C'était les premiers balbutiements, bien sûr, il fallait tout mettre en place. Tout se mettait en place, mais Roger Schafter avait aussi son travail ici, alors il ne pouvait pas aller se promener là-bas pour signer des accords à tout bout de champ, mais c'est allé.
Vous avez aussi ensuite été amené à faire de la politique au sein du PCSI, vous avez été élu au Parlement, vous avez aussi siégé au sein de l'Assemblée interjurassienne de 94 à 98. Qu'est-ce qui vous avait décidé à participer aux travaux de l'AIJ?
D'abord, les travaux de l'AIJ, mais ça me donnait espoir qu'on puisse dialoguer davantage avec toujours le même objectif, la réunification, de retrouver le Jura Sud avec nous. Ou à tout le moins, les aider à parvenir à obtenir un demi-canton. J'aurais été aussi d'accord avec ça, parce qu'on aurait été deux demi-cantons, mais l'entité jurassienne, et surtout eux, plus avec Berne. Alors, ça m'a intéressé de participer à ça. C'est à la demande du gouvernement jurassien, on m'a demandé si ça m'intéressait d'être délégué. J'ai réfléchi un moment et j'ai tout de suite accepté en me disant que ça pourrait être une expérience intéressante. Malheureusement, j'ai assez vite vu que dès qu'on touchait des points fondamentaux, on arrivait à des blocages. Tant qu'on faisait quelque chose qui amenait un peu d'eau au moulin du côté du sud, comme pour la Fondation interjurassienne de l'agriculture, l'Auvraise par exemple, alors ça marchait. Mais dès que quelque chose est obligé de faire un pas dans notre direction, alors on avait toujours les mêmes qui disaient « Mais on a le temps, il faut donner du temps au temps » et on n'avançait pas. Alors après, je commençais à me démotiver et c'est à ce moment-là que j'ai été élu député suppléant. Alors comme j'avais décidé dans mes activités politiques de ne jamais porter deux casquettes publiques, alors j'ai délaissé l'Assemblée interjurassienne pour siéger au Parlement jurassien.
Mais est-ce que c'était pas un petit peu ça, finalement, la contradiction de l'Assemblée interjurassienne? Pour une bonne part de la délégation bernoise, l'AIJ devait servir à tout, sauf à parler de la question institutionnelle, alors que pour les délégués jurassiens, l'Assemblée interjurassienne devait servir surtout à parler de la question institutionnelle.
Je suis d'accord avec vous, vous voyez juste, c'était exactement ça. Donc on ne pouvait pas aboutir, on arrivait à faire des résolutions, mais qui étaient des résolutions, presque des résolutions de cantine. Et pourtant, on était piloté par des gens intéressants. J'ai travaillé sous la conduite de René Felbert d'abord et ensuite de M. Lebas. C'était des gens impeccables. J'aurais eu beaucoup de plaisir de pouvoir travailler avec M. Marty, qui est une personnalité que j'estime un grand homme, mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est comme ça. Mais alors, ça, on l'a toujours senti. Et on a assez vite compris qu'après, ce serait l'échec. Alors, certains milieux séparatistes déploraient la signature de cet accord qui a institué l'Assemblée interjurassienne. Moi, je me suis dit que c'était une carte à jouer. Toute opération qui peut mener à un rapprochement et faire diminuer la haine entre les gens, il faut les saisir.
Et quelque part aussi, l'Assemblée interjurassienne a favorisé, on va dire, ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire le vote de 2013 au niveau du Jura et du Jura bernois, mais aussi le vote de Moutier. Ça, c'est un crédit que vous reconnaissez à l'AIJ ou pas?
Mais oui, tout à fait. Ça a permis quand même de déclencher de nouveau ces votes, même si celui de 2013 a permis de montrer aux pro-bernois qui n'avaient pas envie de nous rejoindre dans le canton du Jura. Ben moi, ça a au moins été fait. L'arrivée de Moutier, bien sûr, me comble. Et je pense que la porte n'est pas fermée, la question jurassienne n'est pas réglée, parce que c'est pas moi ni vous qui allez décider de ce que vont faire ceux qui viennent après nous. Eh bien, quand on a été annexé à Berne en 1815, pendant 100 ans, il ne s'est rien passé. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Après 1915, la Première Guerre mondiale a éteint les velléités séparatistes. Pendant 30 ans, plus rien. Après, la bourde de l'affaire Meucli rallume la question. Alors maintenant, on est dans une période de calme. En même temps, il y a eu des chocs économiques, des dispositions différentes chez les gens qui s'intéressent moins à la politique politicienne et même au système des cantons. Alors, on peut très bien avoir un moment de silence qui va durer 5, 10 ou 50 ans. Et on ne sait pas ce que décideront les autres.